Au menu cette semaine, on analyse les espoirs de la WHL qui sont éligibles au prochain repêchage. Alexander Holtz a effectué ses premiers coups de patin dans la Ligue nationale de hockey et on scrute l'espoir des Canadiens de Montréal, Jordan Harris. Neuf novembre 2021, bienvenue à une autre édition du podcast La Relève. Encore une fois, Anthony Desaulniers et Martin Thériault qui sont avec nous cette semaine pour vous parler des prospects. Marty, comment ça va cette semaine?
Ça va bien. Une petite nouveauté cette semaine, là, une petite musique d'ouverture, ça fait du bien.
Hein? Ben, on se gâte. Tranquillement, on se gâte. On essaye d'innover, on essaye de se rafraîchir, être un peu plus jeune et dynamique. Mais non, mais même de rien, on essaie de devenir un peu plus professionnel parce que notre podcast prend de l'ampleur. À chaque semaine, il y a de plus en plus de monde qui nous écrit, il y a de plus en plus de monde qui nous écoute. Et on vous en remercie à la maison. D'ailleurs, on vous invite, si ça vous intéresse, à communiquer avec nous via notre page Twitter, podcast, La Relève. Marty, je le sais, tu adores interagir avec les gens, tu adores répondre aux gens, donc on vous invite à communiquer avec nous.
Ben oui, absolument, c'est notre mandat d'être au podcast La Relève. On veut répondre à vos questions, on veut répondre à vos interrogations sur des espoirs partout dans le monde. On les connaît tous, mais parfois, on n'a pas nécessairement l'idée précise des joueurs qui peuvent intéresser les gens. Donc, amener des questions, ça nous intéresse vraiment beaucoup. Puis tu vois, on répond énormément. Tu vois, finalement, je pense que j'ai oublié, là, mais tu vois, je m'en allais faire un tweet sur Yegor Sokolov qui jouera son premier match dans la LNH avec les Sénateurs d'Ottawa. Tu sais, c'est super intéressant. Là, un joueur qui a été repêché à 19 ans avec les Eagles du Cap-Breton. Je ne vais pas m'éterniser, mais tout simplement pour dire que c'est des petites choses comme ça qu'on peut parler sur Twitter.
Exact. Sokolov qui avait été excellent, notamment là, dans le camp des recrues là, un peu plus tôt cette année. Marty, tu le sais, maintenant, on essaie d'y aller un peu plus ligue par ligue. Autant la semaine dernière, on a fait la OHL. Cette semaine, on a décidé de s'attarder à la WHL, donc la Ligue de l'Ouest de la CHL. Je pense que ça va de soi. Autant Shane Wright était la tête d'affiche dans la OHL, il faut regarder du côté du Ice de Winnipeg pour la WHL. Il y a vraiment deux joueurs clés à surveiller, Mathieu Savoie et Connor Geeky.
Ouais, ben écoute, honnêtement, c'est vraiment intéressant. Peu importe si vous êtes des amateurs de hockey, d'espoir du repêchage ou tout simplement en général d'espoir du hockey junior canadien, faut vous regarder du côté du Ice de Winnipeg. Je vous le dis, le Ice de Winnipeg, présentement, est la meilleure équipe de la Ligue canadienne de hockey de loin. Ils ont tellement de talent, là. Et non seulement ça, mais comme je vous disais, comme tu disais, Dezo, ben, il y a quand même deux excellents espoirs de premier tour. Tu as un Mathieu Savoie sur un deuxième trio et tu as un Connor Geeky qui joue sur l'autre trio. Donc, c'est vraiment, vraiment très intéressant. Et les deux sont... si tu consultes les listes des différents experts, là, c'est pas quasi unanime pour un joueur ou l'autre. Ça dépend toujours des petites préférences. Ce sont deux joueurs quand même assez différents dans la façon qu'ils peuvent jouer. Donc, si tu as une philosophie différente d'un autre, ça se peut que tu places un Geeky devant un Savoie ou un Savoie devant un Geeky. Je te le dis, je pense que ça va être intéressant. Du côté de Winnipeg cette année, là, c'est Savoie ou Geeky. Ça va être vraiment intéressant.
Ouais, puis comme tu l'as mentionné au passage, c'est deux joueurs qui ne peuvent pas et qui sont au spectre opposé. C'est deux joueurs qui ont des styles complètement différents. Un fait 5 pieds 9, l'autre fait 6 pieds 4. C'est vraiment pas des joueurs qu'on peut comparer à McKinnon, Drouin, par exemple. Ouais. Ce sont vraiment des joueurs qui sont complètement différents dans leur style. Puis c'est là où est-ce que ça devient intéressant. C'est la philosophie des équipes qui va déterminer quel genre de joueur, quel type de joueur on préfère, nous, ici, dans notre organisation. Moi, personnellement, Marty, je suis team Mathieu Savoie. Je le trouve excitant à regarder. Je trouve qu'il a des mains élites. Je trouve qu'il a un excellent lancer. Pas nécessairement le lancer le plus puissant que j'ai vu, mais extrêmement précis. Tu sais, les fameux lancers du coin où est-ce que le gardien de but colle son poteau, mais laisse la petite ouverture au-dessus de l'épaule. C'est le genre de joueur qui est capable d'envoyer le disque à cet endroit-là. Moi, j'adore Mathieu Savoie parce qu'il est plus flashy, sexy, mais est-ce que toi, tu préfères Savoie ou tu préfères Geeky?
Ah, mais moi, définitivement, je préfère Savoie. Tu vas le remarquer au fur et à mesure que je parle d'espoir là, et dans mes classements, là, j'ai toujours tendance à préférer davantage les joueurs qui pensent, des joueurs qui ont une excellente vision de jeu, qui sont très intelligents. Là, et entre les deux, celui qui a cette facette du jeu-là, moi, selon moi, c'est Mathieu Savoie. Lorsqu'il se positionne en avantage numérique, se positionne à droite là, le long de la rampe, là, puis c'est constamment positionné pour alimenter ses coéquipiers, prendre le temps Vraiment, il distribue d'excellentes passes. Mais comme tu dis, je trouve qu'il est excessivement complet. Il est capable de décocher des lancers. Il est capable d'être très bon à ce niveau-là. C'est un petit joueur de petit gabarit, mais très rapide et pas nécessairement quelqu'un qui a de la difficulté avec le jeu physique. Il est quand même assez bon lorsqu'on lui met de la pression. Moi, je suis un énorme fan de Mathieu Savoie. La seule petite chose qui me chie... Et là, on s'entend, on parle d'espoir top 5. Ça fait un espoir de haut calibre quand même. Mais où je le place peut-être derrière certains autres espoirs, c'est que parfois, il a tendance à trop en faire et il va créer quelques... pas des revirements, là, mais il va rater un peu des passes en zone offensive. Puis par la suite, ben, ça permet, dans le fond, son équipe perd tout simplement la rondelle. C'est le seul petit bémol que j'aurais pour lui. Puis je vais attendre de voir au fur et à mesure de la saison. Là. Moi, je pense que Mathieu Savoie, c'est quelqu'un qui pourrait s'améliorer énormément avec certaines expériences. Là. Soyez pas surpris qu'il ait une invitation au camp d'équipe Canada Junior et qu'il fasse peut-être même l'équipe. Je pense que ça va être intéressant à suivre là, dans son cas.
Mais tu sais, tu parles de top 5. Là, c'est sûr que c'est très préliminaire parce qu'on est encore début novembre. On s'amuse justement à prédire ce qui va arriver dans 8 mois. Donc, il y a plein de choses qui peuvent encore changer. Mais si le repêchage avait lieu demain matin, dans ma tête à moi, Mathieu Savoie, c'est un top 3. Moi, je le place dans les 3 premiers. J'ai consulté quelques listes. Il y a Scott Wheeler qui est évidemment une des références dans le domaine. Lui, il a mentionné que c'est de loin... tout de suite après Shane Wright, c'est incontesté numéro 2, Mathieu Savoie. C'est sûr qu'il y a des choses qui peuvent changer, mais autant on parle de son aspect offensif, c'est un joueur qui travaille fort, mais qui travaille aussi très bien dans sa zone. Moi, je le sais que tu l'as mentionné, Marty, mais il est excessivement complet. Puis c'est pour ça, je pense que ça peut être un game changer pour une équipe.
Ouais, mais tu fais bien de parler de Scott Wheeler parce que Scott Wheeler, traditionnellement, aime justement ce genre de... Si j'ai une similarité avec Scott Wheeler, c'est peut-être à ce niveau-là. Là. Des joueurs très, très bons en avantage numérique qui ont un véritable cerveau là, sur la patinoire. Je sais qu'ils les aiment beaucoup. Je me souviens d'un Marco Rossi, il l'avait 3e dans sa liste en 2020. Et Marco Rossi, sans dire que c'est la même chose, je pense que Rossi est plus tenace dans les coins, un petit peu plus de côté papier sablé que Mathieu Savoie. Mais c'est un peu le même genre d'impact en avantage numérique. Donc, c'est intéressant à voir ce parallèle-là.
Puis le fait qu'il y ait un petit gabarit, c'est... il ne sera pas nécessairement brassé pour autant parce qu'il est très bon pour éviter les contacts, se déplacer en zone restreinte. Il a d'excellentes mains gauche-droite. Donc, même s'il se sent un peu étouffé, il va être en mesure de trouver une solution à ce que l'adversaire lui propose comme schéma défensif. Donc, moi, j'aime bien Mathieu Savoie. Puis, c'est rien pour enlever à Connor Geeky, mais c'est pas mal plus le genre de joueur qui me fait triper quand je regarde du hockey qu'un gros bonhomme de 6 pieds 4. Il est bon, Geeky. Je ne dis pas le contraire. Mais je trouve que son coup de patin... il laisse un peu à désirer, malgré, c'est sûr, avec le gros gabarit qu'il a, là, c'est normal qu'il ne vole pas sur la patinoire. Mmh. Mais moi, ça me dérange un petit peu.
Moi, je vais apporter un bémol au coup de patin de Connor Geeky. mais c'est pas qu'il manque de patin. Je pense que lorsqu'il a le temps d'avoir une bonne foulée, un bon élan, il est capable d'avoir un coup de patin assez intéressant. C'est l'explosion. Ça, c'est un problème. Et malheureusement, je pense que c'est une facette que tu dois avoir... si tu veux jouer éventuellement dans la LNH, on n'arrête pas d'en parler. La LNH, c'est une ligue de vitesse. Moi, ce que je trouve intéressant avec Connor Geeky, c'est que je ne veux pas que tu aies des références sur quoi te baser pour savoir qu'est-ce que ça peut donner. Parce que son frère est à peu près du même calibre, du même gabarit plutôt, et il joue déjà dans la LNH avec le Kraken de Seattle. Morgan Geeky. Et Morgan Geeky, je me souviens de son année de repêchage, c'est un peu la même chose. C'est un joueur qui a été repêché, je ne me trompe pas, à sa 2e année d'admissibilité. Beaucoup de gens l'aimaient, mais ceux et ses détracteurs disaient justement qu'il manquait de coups de patin. Que ça allait lui nuire. Et là, présentement, qu'est-ce que tu vois dans la LNH? C'est correct, c'est un joueur qui a son utilité au sein du Kraken, au sein d'un top 12, même avec les Hurricanes de la Caroline auparavant, c'était quelqu'un qui était quand même apprécié. Mais c'était pas... justement, son coup de patin l'empêche d'être vraiment dominant et devenir un peu un... Tu sais, s'il y avait un coup de patin, ça pourrait devenir un genre d'Alex Stock, tu sais, avec quelqu'un avec un gros gabarit qui déborde hors l'aile, qui est capable de créer des chances de marquer en se présentant devant le gardien de but, en bougeant les choses, en faisant travailler les défenseurs. Là, à cause de ce coup de patin-là, je pense que c'est plus difficile, tu sais. Connor Geeky a quand même son utilité pour le... Tu sais, c'est un joueur qui joue bien quand même... Ben, je pense que Savoie est meilleur défensivement, mais Geeky a une volonté de vouloir travailler à ce niveau-là. Et étant donné qu'il a un très, très bon gabarit, ça lui permet de... Il est excellent pour séparer la rondelle du porteur. Donc, tu sais, Connor Geeky, c'est pas un, c'est pas quelqu'un que je placerais deuxième tour et que je me dis qu'il n'y aura pas de carrière. Là, je pense qu'il
non, va non, être non, bon. Non, non,
non. Non, mais il va être bon. C'est simplement que son coup de patin, je pense, va lui nuire. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui le placent potentiel premier trio. Je pense que son coup de patin va beaucoup trop lui nuire à ce niveau-là. La Ligue nationale, comme on le dit souvent, c'est une ligue de vitesse et je ne suis pas certain qu'il va être capable de suivre.
T'sais. Mais je sais qu'il y a plein de gens qui ne sont pas en accord avec nous sur les mock drafts présentement qui circulent un peu partout sur Internet. Mm-hmm. Moi, personnellement, Kiki, au moment où on se parle, des choses qui peuvent changer, mon opinion peut changer à des dizaines de reprises, mais je le vois plus autour du 8e, 10e rang. Lorsque va arriver le repêchage au mois de juillet. Pas parce qu'il n'est pas bon, mais je pense que c'est ça. Il y a certaines petites lacunes qu'il va devoir améliorer pour que son jeu se transpose bien dans la Ligue nationale de hockey. On a parlé un peu de sa faiblesse, son patin, mais il y a plein de choses qu'il fait excessivement bien. Comme tu dis, Marty, il est très bon pour protéger la rondelle avec son gabarit. Il est très bon avec son gabarit pour séparer son adversaire de la rondelle. Moi, ça, c'est des choses que j'aime bien. Ça démontre une certaine intelligence. Peut-être pas le même genre d'intelligence qu'un Savoie qui va plus créer des jeux, mais ça reste que de récupérer la rondelle et de faire avorter une menace. Ça, c'est payant. Puis Geeky, c'est quelque chose qui fait très bien. C'est pas le gars qui va faire 4-5 enjambées pour aller tamper le gars dans le coin de la patinoire. Il n'en fait pas de mise en échec percutante. C'est pas sa tasse de thé. Mais par contre, il se sert de son gabarit de façon intelligente. Puis là, c'est quelque chose vraiment qui est intéressant pour les équipes.
Ouais, et tu sais, tu dis qu'il n'est pas physique, mais en même temps, il est capable de jouer dans la circulation lourde, gagner des batailles. Et c'est là que c'est intéressant, c'est ce que je vais suivre, honnêtement, pour toute l'année, je te dirais. La comparaison que je vais prendre, c'est justement un ancien de la WHL, c'est Cody Glass. Je suis présentement avec les. Il devrait jouer avec les Predators, mais dans la Ligue américaine présentement.
Dans le choix des Golden Knights.
Exactement. Cody Glass, ce qui est intéressant, c'est que son année de repêchage, c'est un peu le même genre. Un patineur de 6 pieds 3 pouces avec d'excellentes mains. Là, je me souviens de l'avoir vu jouer. J'ai un truc qui avait tellement, tellement de bonnes mains, tellement de bonne habileté. D'ailleurs, Geeky a d'excellentes mains également. Il a une très bonne vision de jeu, malgré son manque de coups de patin. Là. Mais il est capable de faire des passes qui sont assez difficiles à effectuer. Et Cody Glass, pour venir à ça, là, il manquait de coups de patin, mais moi, je m'étais laissé emballer. Honnêtement, je l'ai un peu échappé. Là. Je l'ai placé à peu près dans les alentours d'où il a été repêché. Et l'erreur que je pense que j'ai fait, j'ai justement sous-estimé son coup de patin, mais également... Cody Glass, c'est pas un joueur qui est super physique. C'est pas quelqu'un qui s'implique dans les coins. Il n'est pas nécessairement efficace à ce niveau-là. Donc, si tu compares avec un Connor Geeky, qui lui est capable de faire le travail, ben ça veut dire qu'au lieu d'avoir un joueur qui là, a de la difficulté à s'établir dans la LNH, voire 3 ou 4 ans même après son repêchage, ben étant donné qu'il ajoute une autre dimension à son jeu, là, ça en fait un joueur un peu plus safe, si tu veux. Tu le sais qu'au minimum, même si ce n'est pas un joueur dominant parce qu'il manque de coups de patin, ben au moins, il est capable d'effectuer des missions défensives tout simplement parce qu'il est capable, comme on l'a dit, là, d'être excellent pour séparer la rondelle du porteur, peut couper le centre, peut faire toutes les petites missions que son entraîneur-chef va lui demander. Tu sais. Mais encore une fois, comme on le dit depuis à peu près 10 minutes, là, son coup de patin, c'est vraiment une énorme lacune. Et même au niveau junior, honnêtement, parfois... Tu sens qu'il veut se placer au bon endroit, mais comme il y a une seconde en retard, ben, les adversaires ont le temps de le contourner davantage. Donc, imaginez qu'est-ce que ça peut être dans la LNH, en tout cas, selon moi. Là.
On n'a pas fini de surveiller Savoie et Geeky, parce que comme on le disait d'entrée de jeu, ce sera deux espoirs de très haut niveau lors du prochain repêchage. Parce que aussi, le Ice de Winnipeg, c'est une équipe qui va être excessivement intéressante à suivre, parce qu'ils ont plusieurs bons joueurs. Bon, on le sait, ils ont ces deux joueurs-là. Mais ils ont aussi un Carson Lembos qui a été repêché l'année dernière au premier tour par le Wild du Minnesota. Marty, en tant que fan du Wild, en faisant du scouting un peu sur Geeky et sa voix, tu as dû regarder un peu Lembos. As-tu aimé ce que tu as vu de ton joueur?
Ah, ben c'est sûr, c'est certain que j'ai adoré. Il faut simplement apporter des bémols. Ce ne sera pas un défenseur de première paire, pas du tout. Je pense que son jeu offensif, il est bon pour la WHL, mais peut-être pas. C'est pas élite, c'est pas Adam Fox, c'est pas Victor Hedman, c'est pas Kyle Makar. Là, ça marche au niveau junior parce que les gars sont un peu moins talentueux. Mais moi, ce qui m'impressionne vraiment de Carson Lambos, c'est son coup de patin, mais je voudrais dire son style de patin. Il a tellement un beau style fluide. Là. Moi, quand j'étais joueur, j'avais un coup de patin dégueulasse. Là, puis je suis jaloux de voir un Carson Lambos. Là. Et c'est tellement fluide, tellement incroyable. Et comme il y a tellement de belles techniques de patinage, ça lui permet d'être super fluide dans ses changements de position. Il est super mobile, super agile. Et sur le plan offensif, comme je t'en parlais, ça l'aide beaucoup. Moi, le match que j'ai regardé du Ice de Winnipeg plus tôt cette semaine, Carson Lambos a obtenu un but et la façon qu'il l'a obtenu, c'est justement grâce à son coup de patin. Des changements de direction quand même assez rapides, ce qui le rendait très imprévisible à la ligne bleue. Puis il a fini par décocher un lancer parce qu'en faisant ces mouvements-là, ça lui a ouvert une ligne vers le filet. Ça, c'est des joueurs qui sont... En raison de son coup de patin, je pense que ça va aider à se démarquer à ce niveau-là. Ça, j'ai vraiment adoré. Et même au niveau défensif également, dans sa zone, je l'ai trouvé très efficace. Là. Très difficile à battre. Il était justement avec ses changements de position. Il pouvait esquiver la pression puis effectuer des relances assez rapides. Là. Non, c'est vrai. T'sais, juste pour te donner une idée, le match que j'ai regardé, là, puis là, c'est certain que là, on parle d'Instat. Est-ce que c'est extrapolé? Je ne sais pas. Mais Instat a comptabilisé 14 takeaways, donc des revirements provoqués. Là, 14. C'est quand même pas rien. Là. C'est quand même assez bon. Là. Donc, c'est tout simplement pour dire que c'est vraiment intéressant. Mais et ce que je trouve d'autant plus intéressant pour un Carson Lambos, c'est que c'est un espoir du Wild et. Au-delà du fait que c'est mon équipe. mais je pense qu'il y a d'excellents défenseurs sur qui il peut se baser en tant que modèle. Et là, je pense à Jonas Brodin. Je pense que Brodin est meilleur défensivement et moins offensif que Lambos. Mais si Lambos, par exemple, l'an prochain, débarque au camp du Wild, est capable de faire un bon bout de chemin et qu'on lui jumelle Brodin, mais qu'on dit à Brodin, prends-le sous ton aile, essaie de lui montrer les bonnes petites choses que tu fais parce que Jonas Brodin, c'est probablement des meilleurs pros
que toi. Irréprochable.
Comment?
Irréprochable.
Irréprochable. En défense, là, il est extraordinaire. C'est un des meilleurs, sinon le meilleur joueur défenseur défensif. C'était pas le meilleur, là, mais un des meilleurs défenseurs défensifs de la LNH. Et s'il se colle à lui, ben, il va être capable de lui montrer tous les petits détails, un petit peu comment il se positionne, comment il se comporte sur une patinoire, les habitudes d'entraînement. Et comme Lambos c'est comme je dis, c'est pas exactement le même joueur, mais comme il y a des qualités qui se peuvent se rattacher à Brodin, je pense que ça peut faire des petits cette affaire-là. Je vais seulement prendre l'exemple de Joel Eriksonek. Ben, c'est un joueur de 6 pieds 2, 6 pieds 3 pouces. Très, très bon défensivement à la base, mais tu as un Mikko Koivu qui peut lui montrer les petites choses. Et là, l'effet de tout ça, c'est que Joel Eriksonek présentement. Quatrième au scrutin pour le trophée Selke la saison dernière, et ça devient un des bons centres défensifs dans la LNH. Donc, pour revenir à Lambos, c'est un gars comme Brodin avec qui il peut s'apparenter, tu peux détecter certaines qualités qui se ressemblent un petit peu. Ben, je pense que ça peut être intéressant. Là. Il y a de beaux modèles, en tout cas, dans son organisation. Je pense que c'est un Carson
Lambos. Ce que j'aime bien de Lambos, c'est que, ben, comme plusieurs, l'année dernière, n'a pas joué à cause. Il y a eu la COVID avec la WHL, après ça, il y a eu des blessures. Donc, il partait quand même de loin. Il n'avait pas beaucoup de hockey dans le corps lors des derniers mois, mais tu l'as mentionné, très athlétique, super bon pour passer de la zone défensive à la zone offensive, d'effectuer cette transition-là. Coup de patin, on le sent. Je ne sais pas si c'est parce qu'il est content de jouer au hockey, mais il joue excessivement bien. Il faut dire qu'il joue avec une bonne équipe. C'est sûr que ça l'aide. Mais quand même, j'aime ce que je vois. Pour une 26e sélection totale là, de la part du Wild, je trouve qu'ils ont ramassé. Comme tu l'as dit, peut-être pas un défenseur là, générationnel qui va transcender l'équipe, mais un bon défenseur fiable qui devrait être capable d'opérer sur une deuxième paire dans la ligne nationale. C'est quelque chose que je vois là, à moyen terme là, avec le Wild du Minnesota.
On parle de défenseur moderne, si tu veux. Puis tu l'as tellement bien mentionné. Sa transition de la zone défensive à la zone offensive est tellement bonne. Puis tu sais que moi, dans la LNH, c'est une question d'attaquer la zone neutre avec beaucoup de vitesse puis de surprendre l'équipe adverse. Je pense que là-dessus, Carson Lambos va être très efficace. En tout cas, je peux plus se tromper, mais moi, je pense qu'il y a une place dans la LNH. Lorsque ça va être le cas, son coup de patin va vraiment l'aider à ce niveau-là.
Bon, Marty, on a parlé des deux espoirs qui sont projetés pour le prochain pêchage élite du côté du Ice de Winnipeg. Un joueur qui a déjà été repêché l'an dernier. Eh bien là, je te propose qu'on parle d'un joueur qui va être repêché, mais l'an prochain. C'est Zach Benson, jeune de 16 ans. Vraiment, il connaît une superbe saison, déjà 17 points en seulement 10 parties. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour Zach Benson? Est-ce que tu penses que ça va se développer comme un futur choix de premier tour en 2023?
Premier tour, c'est certain. même à un an du repêchage, c'est certain. il est trop, trop exceptionnel, honnêtement, là. C'est impressionnant. Honnêtement, même, je pense que c'est un candidat pour le top 5 en 2023. Là, on va attendre de voir. Là. Il y a quand même un an et demi encore de bon hockey à regarder. Mais il est tellement, tellement impressionnant. Moi, honnêtement, je pense que je le préfère à Mathieu Savoie. Même si Savoie est un an plus vieux et il a plus d'impact sur le match. Là. Savoie joue sur le deuxième trio. Benson joue sur... Puis c'est pour te montrer à quel point le Ice de Winnipeg a une très bonne équipe. Là. Zach Benson a des statistiques incroyables. 20 points. Je vais simplement les ressortir. Là.
20 points, 24 parties, n'importe
qui. À 15 ans, on parlait de Connor Bedard, mais 20 points, 24 rencontres, c'est pas les statistiques de Connor Bedard à Regina. Mais c'est très, très, très bon, là, à 15 ans. Puis là, à 16 ans, tu as mentionné ses statistiques. C'est 17 en 10, là, si je me trompe. Si je me, si
17 en 10, exact, dont 8 buts.
Donc, tu sais, on est proche du 2 points par match à 16 ans. Là, ça commence à ressembler à des statistiques de joueurs. Potentiellement vedette dans la LNH, honnêtement. Là, je sais que son gabarit n'est pas très gros, là, c'est 5 pieds 9 pouces, mais à 16 ans, il a le temps encore de prendre un ou deux ou trois pouces de plus. On peut s'attendre à le voir à 5 pieds 11 ou 6 pieds, ce qui est bien parfait pour la LNH. Puis moi, il a une excellente vision de jeu, il est très créatif, il n'a pas peur d'effectuer des jeux pour esquiver la pression puis libérer des options de passe. Mais également, moi, ce que j'ai aimé beaucoup, là, comparé, même davantage que sa voix, c'est qu'il est très énergique. Toujours le visage devant la face de l'adversaire. Très bon en échec avant. Crée beaucoup, beaucoup, beaucoup de revirements. Puis ça, c'est vraiment intéressant. Et tu le sais comme moi, Dezo, quand tu joues avec de bonnes équipes, avec des joueurs talentueux, ça fait des petits. Tu as de la confiance. Tout va bien. Tu n'arrêtes pas de gagner. Il y a quand même 14 victoires en 15 matchs pour Winnipeg présentement. Et... sans dire un trop gros scoop, d'après moi, ils n'en perdront pas beaucoup plus. Ils vont peut-être en perdre 3 ou 4 autres. Mais c'est une équipe assez dominante. Mais tout simplement pour dire que s'ils continuent à se développer avec d'excellents joueurs comme ça, on peut arriver la saison prochaine. Puis ça va être. C'est un joueur qu'il faut vraiment, vraiment surveiller pour le repêchage 2023, sans aucun doute.
Oui, en fait, il y a plusieurs joueurs qu'on doit surveiller pour le repêchage 2023, qu'on qualifie d'élite. Bon, si je peux faire un. Dans ma tête, à moi, le repêchage l'année dernière arrivait troisième, le repêchage cette année deuxième, un peu devant, mais le repêchage 2023 est clairement devant les deux autres. Donc, Zach Benson fait assurément contribue assurément à ce classement-là.
Vas-y, honnêtement, le repêchage 2023, là, ça pourrait être une des... Puis là, on va se garder une petite joint, comme je dis, il y a un an et demi encore de hockey à regarder, il y a plein de joueurs qui peuvent moins se développer que prévu. Il y en a d'autres qui peuvent mieux se développer. Mais à l'heure actuelle, je pense qu'on peut dire que le repêchage 2023 là, pourrait être l'un des bons pourrait être l'un des meilleurs, sinon le meilleur repêchage des 9 ou 10 dernières années. C'est jusqu'à ce niveau-là. Le top 5 est tellement, tellement talentueux. Là. On a souvent parlé de Connor Bedard, on a souvent parlé de Matvey Mishkov. Je continue d'insister, on n'en parle pas énormément, mais il y a Adam Fantilli dans la USHL qui est excellent. Moi, je l'adore. Je le place dans la même catégorie qu'un Bedard et un Mishkov. Et tu as Dalibor Dvorsky, qui est un Slovaque, mais qui évolue en Suède. Et là, on parle de Benson. Ça te fait minimum 5 joueurs qui sont excessivement bons, qui ont des statistiques incroyables, tous dans d'excellentes ligues. Donc, imagine qu'est-ce que ça peut donner à leur année de repêchage à 17 ou 18 ans, tu sais.
Alors ça, c'est clair. Puis parlons-en de Connor Bedard, parce qu'on parle de la WHL. Évidemment, on ne peut pas parler de la WHL en passant sous silence le phénomène Connor Bedard. Encore une fois, cette année, domine. Il a dominé l'année dernière avec 28 points en seulement 15 parties. Il a dominé au moins 18 ans avec 2 points par match. Bon, cette année, ce n'est peut-être pas des statistiques aussi impressionnantes, mais il a quand même 10 points en 13 parties. Est-ce que Connor Bedard, Marty, est le nouveau Connor à surveiller? Est-ce qu'il va être du calibre de Connor McDavid? Je le sais que c'est loin. On s'amuse, on stipule. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce genre de prestation-là? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce genre de carrière-là de la part de ce jeune joueur?
Moi, honnêtement, je le regarde jouer depuis l'année dernière. Là, même lorsqu'il était en Suède, pendant la COVID, lorsque la WHL ne jouait pas, il avait décidé d'aller faire un tour du côté de la Suède pour devancer son développement. Si tu veux pas prendre... trop de temps de repos puis comme continuer à s'améliorer. Et tous les petits détails au niveau de l'intensité que j'ai pu voir là, depuis 2 ans me laissent penser que, honnêtement, c'est le successeur à Connor McDavid. Moi, selon moi, là, dynamique, dominant tous les matchs, des bonnes mains, il est rapide, c'est un marqueur, il a un bon lancer, il a un impact continuellement sur le match, tu sais. Et moi, selon moi, c'est clair et net. Et...
Si je peux me permettre, là, il y a l'instinct du joueur, quand ça compte, donnez-moi la rondelle. Moi, je vais aller le marquer, le but égalisateur. Et on l'a vu de McDavid là, il y a quelques jours contre les Rangers en fin de match. Donnez-moi la rondelle, je vais tout les déjouer. Mais c'est la même chose pour Connor Bedard. Ah ouais, vous pensez que vous nous avez dans les câbles, faites-moi embarquer sur la patinoire, je vais provoquer quelque chose, je vais contribuer à ce que notre équipe se ressaisisse. Et ça, c'est un trait de caractère qu'on ne voit pas souvent chez les joueurs de hockey, d'être capable de gérer cette pression-là, qu'ils soient repêchés à New York, qu'ils soient repêchés à Toronto, dans des marchés qui ne sont pas nécessairement faciles. Moi, je suis convaincu que Connor Bedard va être sensationnel dans la Ligue nationale.
Et c'est ça, comme je te dis, il y a tellement de... Tu sais, quand tu évalues un espoir, là, je ne suis pas comme ça, je le fais, là, mais tu pourrais nécessairement avoir une liste avec toutes les qualités, une à côté de l'autre, chez les joueurs. Et là, tu te coches des cases. Je sais pas, exemple, on parlait de Connor Geeky. Mais Connor Geeky, bon, la coche patin, tu ne la coches pas, mais tu vas aller cocher défense, tu vas aller cocher lancer, tu vas aller cocher vision.
Ouais.
Mais Connor Bedard, tu peux cocher. À part peut-être le côté défensif, ça, je pense qu'il doit l'améliorer, c'est sûr. Je pense que à ce niveau-là, peut-être que Benson est meilleur que Bedard, mais pour le reste, là, tu peux tout cocher. Et lorsque tu as plusieurs cases comme ça, ben c'est là que tu dis, OK, c'est indéniable, c'est une vedette dans la LNH. Il apporte trop de choses pour ne pas être dominant. S'il veut te déjouer avec sa vitesse, il va te déjouer avec sa vitesse. S'il veut surprendre un gardien avec son lancer, ça va être un lancer. S'il y a à faire une passe exceptionnelle pour un coéquipier, il va le faire également. Tu sais, je pense qu'il... En tout cas, on verra bien. Là, je sais qu'il n'est pas le joueur le plus gros non plus. Là. Il est 5 pieds 9 pouces, puis parfois, ça peut nuire. Là. Mais moi, honnêtement, je serais bien surpris qu'il ne se rende pas dans les lâches et qu'il ne soit pas une... Non seulement une vedette, mais une super vedette qui va être un des 4 ou 5 meilleurs joueurs de la LNH pour les prochaines années.
Ah, ça s'annonce une année vraiment excitante pour le podcast La Relève en 2023, mais vivons 2022 d'abord. Mais oui, avec Matvey Mishkov, Fantilli, Bedard et Benson, ce sera relevé.
Et tu sais, on parle de ces statistiques, 10 points, 13 matchs. OK, c'est pas impressionnant pour quelqu'un qui est une super vedette et Benson a des meilleures statistiques si on regarde ça. Mais il faut comparer des pommes avec des oranges aussi. Benson évolue avec le Ice de Winnipeg. Oui, je sais qu'il est sur le troisième trio, mais évolue sur la deuxième vague d'avantages numériques, notamment avec Geeky.
Donc, les défenseurs adverses qui sont pas mal moins bons aussi.
Aussi, mais ça veut aussi dire moins de temps de jeu, parce que le temps de jeu va aller davantage au trio de Savoie, qui est le premier, et de Geeky, qui est le... C'est contraire plutôt. Le trio de Geeky, qui est le premier, et Savoie, qui est le deuxième. Il y a tellement... Tu sais, je pourrais te parler de Connor McLennan, qui est un espoir des Flyers, si je ne me trompe pas. Mais tu sais, t'as beaucoup, beaucoup de talent. Comme tu dis, moins d'opposition, mais de meilleurs joueurs pour effectuer des points également. Si tu fais une passe à un joueur, ça se peut qu'il la complète assez facilement. Connor Bedard, c'est complètement l'inverse. L'équipe est assez ordinaire. Tu sais, je dirais que peut-être le défenseur Ryker Evans qui est bon, là, même Stanislav Dvozil a beaucoup de difficultés à prendre le rythme de jeu de la WHL. Mais tu sais, sinon, je veux dire, Connor Bedard, ses deux ailiers, c'est Cole Dubinsky, un joueur de 19 ans, qui est assez ordinaire, et t'as Logan Nijhoff, qui est... Moi, je l'aime bien pour le calibre de jeu junior, mais il manque de... Parce qu'il est assez robuste, mais c'est davantage un joueur d'énergie, tu sais, c'est... Honnêtement, je pense qu'il manque de patins pour se rendre dans la LNH, et c'est un joueur de 20 ans. Donc, c'est simplement pour te dire à quel point on compare des pommes et des oranges. Et l'autre chose avec Connor Bedard, OK, il a peut-être pas nécessairement les points, mais je me suis amusé à regarder les tirs au but qu'il a obtenus lors des 3 derniers matchs. Il a obtenu 8 tirs, 10 tirs et 8 tirs. Le match que j'ai regardé, c'est le match de 10 lancés. Il était partout, ça n'avait aucun bon sens. Et il décochait des tirs de partout. Il voyait vraiment, là, OK, ça c'est un joueur exceptionnel, il veut faire la différence. Mais bon, ses lancés ont à peu près tous été stoppés par le gardien, tu sais, donc... C'est pas une inquiétude, là, on le voit par le nombre de tirs au but. Il domine, il cogne à la porte.
Deux, trois petites précisions. Effectivement, Connor McLennan est un joueur des Flyers, repêché au sixième tour. J'aimerais ça aussi juste mentionner. Zach Benson, mine de rien, il avait été frappé solidement il y a deux, trois semaines par Damon Hunt. Penses-tu qu'à 5 et 10, Marty, quand même juste 5, 16 ans, penses-tu que ça va être quelque chose d'un peu plus difficile dans sa game de se faire frapper? Parce qu'il a manqué plusieurs rencontres. Il vient juste de revenir au jeu. Là. Il n'a disputé que deux rencontres. Là. Je pense que c'est le 4 et le 7 novembre de mémoire.
Ouais, ben c'est ça. Le match que j'ai regardé, c'était son retour au jeu. Là. Mais non, je ne suis pas inquiet. Là. Même au contraire, là, je pense qu'il est capable de faire face au jeu physique. Parce que comme je te disais, il est continuellement dans le trafic, continuellement en train de travailler fort à soutirer les rondelles aux adversaires. Moi, je pense qu'au contraire, ça va être une force, peut-être davantage que d'autres joueurs comme... tu sais, je pense on parle de joueurs exceptionnels, là, tous des joueurs étiquetés peut-être futurs vedettes. Là. Mais tu sais, Matvei Mishkov en donne peut-être moins à ce niveau-là, tandis que Benson, lui, continuellement met de la pression, est toujours très, très, très tenace. Non, moi, au contraire, je pense que ça peut même être une force de son côté.
Bon, frappé par Damon Hunt qui joue pour Moose Jaw, ça m'amène à mon nouveau joueur que j'aimerais ça qu'on parle parce que je pense qu'on a assez parlé du Ice.
Je pensais que tu allais me reparler du Wild. Là. Damon Hunt, c'était un espoir du Wild.
Moi, non. Lâche-moi le Wild. Là. On a assez parlé du Wild, on a assez parlé du Ice de Winnipeg. Je veux qu'on parle de Moose Jaw dans la WHL parce que c'est Denton Mateychuk qui est là. C'est un défenseur quand même de bon gabarit, gabarit respectable là, à près de 6 pieds et 185 livres. Mais c'est un défenseur vraiment moderne, très mobile, bon patin, se déplace bien sur la patinoire, est capable de se porter à l'attaque. Peut-être un peu trop parfois, sens-tu des fois qu'il a l'aspect attaque un peu trop en tête et peut négliger l'aspect défensif?
Moi, c'est ce que j'ai vu également des commentaires des gens qui disaient justement, je pense que c'est son entraîneur-chef qui disait, là, il faut lui apprendre à attaquer, mais attaquer au bon moment. Là, pas toujours attaquer. Des fois, c'est le mauvais moment, t'attaques, mais... tu te rends compte qu'il y a des joueurs en arrière que qu'un attaquant n'a pas nécessairement pris ta position derrière. Et là, s'il y a un revirement, oups, ça donne un surnom et ça permet d'avoir des buts. Tu sais, des petits trucs comme ça. Tu sais. C'est ce que j'avais vu. Honnêtement, je n'ai pas trouvé que c'était si pire que ça. J'ai trouvé qu'il... Puis l'entraîneur-chef en question, on en parlait justement, il disait que c'était énormément amélioré à ce niveau-là. Là. Et je pense que Denton Mateychuk, c'est un peu ça. Il y a encore son côté offensif et c'est vraiment intéressant. Là, c'est pourquoi c'est un espoir de premier tour. Très bon pour transporter la rondelle, comme tu as dit. Un bon coup de patin. Il a d'excellentes mains également. Là, pas peur d'effectuer la petite feinte pour déjouer un adversaire. C'est un joueur très intéressant. Tu sais, un peu dans le moule des Samuel Girard, si tu veux. Je pense qu'il est peut-être un petit peu plus gros que Samuel Girard. Mais tu comprends ce que je veux dire, là, le défenseur qui va parfois être le quatrième attaquant et qui n'a jamais peur d'arriver créer des surnombres. Et là, comme on dit, défenseur moderne, là, dans la LNH, de plus en plus, on demande aux défenseurs de se porter à l'attaque, de créer un surnombre et ça améliore les qualités, le nombre de chances de marquer. Tu sais, ça, c'est intéressant.
Mais Marty, permets-moi de mettre mon chapeau d'avocat du diable. C'est un peu mon rôle ici. Mais... Penses-tu des fois que ces petites feintes qu'il fait, ça peut être du stuff de junior, puis ça va être plus propice à ce qu'il perd la rondelle à la Ligue nationale, parce que les joueurs sont meilleurs, les joueurs étudient les tapes, vont s'adapter quand même rapidement à son jeu. Penses-tu que Mateychuk peut devenir un peu propice justement à causer des revirements à son équipe?
Je pense pas. Je pense qu'honnêtement, ça se fait quand même assez bien. Je pense qu'il fait ça simplement par instinct pour... tout simplement se libérer un petit peu de pression. Mais je pense que dans la LNH, il va pas faire nécessairement ça. Moi, ce qui m'inquiète davantage dans le cas de Denton Mateychuk pour la LNH, c'est davantage son jeu défensif. Et quand je dis défensif, c'est surtout sur le plan physique. Moi, j'ai trouvé que les moments où il a perdu la rondelle lors des matchs que j'ai regardés, les moments où il a peut-être moins bien paru, c'est lorsqu'on mettait de la pression dessus qu'on allait le frapper. Et là, ça, tu le sais comme moi, dans la LNH, les équipes font davantage d'échecs avant, sont beaucoup plus rapides et les joueurs, surtout, sont plus gros. Donc, si tu lui mets davantage de pression, moi, mon interrogation avec lui, c'est est-ce que ça va devenir un défenseur propice au revirement qui va être davantage nuisible par ses revirements qu'utile parce qu'il apporte de l'attaque et qui transporte beaucoup la rondelle et que c'est une menace en avantage numérique. Ça, c'est l'autre facette également. Là. C'est un bon joueur d'avantage numérique. C'est un bon quart arrière. Il contrôle bien. Il voit bien le jeu se développer. il est capable d'envoyer des lancers, même si ce n'est pas un lancer foudroyant, capable d'envoyer des lancers au filet et capable de contribuer de cette façon-là. Mais moi, c'est ma principale inquiétude. Tu sais, on parlait de Ty Nelson la semaine dernière. Là. Ty Nelson, je t'avais dit, je pense que sur le plan physique, ça va aller. C'est un bulldog, il est très gros. Au niveau junior, il détruit des adversaires. Je pense pas que ça va être ça dans la LNH, mais je t'avais dit qu'il allait probablement s'en sortir à ce niveau-là, malgré sa petite taille. Matt Haychuk, j'ai un peu plus de difficultés. Je pense que ça pourrait être un peu plus difficile, et c'est pourquoi, moi, selon moi, dans mes listes du moins, c'est un espoir de premier tour quand même d'Anton Matt Haychuk, mais tu n'as pas le choix de le placer un peu plus tard parce que, moi, dans ma tête à moi, du moins, je pense qu'il y a un risque. Mais bon, on verra bien, là.
Ben, surtout si tu le compares à Ty Nelson qui garde son jeu beaucoup plus simple. C'est un défenseur qui ne se pose pas vraiment de questions. Là. Je fais ce que j'ai à faire et je laisse les autres faire de la fantaisie. Moi, je ne fais pas d'erreur. C'est un peu plus ça. Tandis que Matt Haychuk, lui, peut-être que je me trompe. J'ai l'impression que des fois, il va en faire peut-être un petit peu trop, va essayer de tenter la petite feinte. J'ai vraiment hâte de voir. Ça se peut que ça fonctionne super bien dans la Ligue nationale. Mais moi, je me rappelle de Mihal Sergachev à Montréal, ses premiers matchs. Et attention, on essaie de les feintes, puis là, ça part deux contre un l'autre bord. Fait que, je ne veux pas faire une comparaison boiteuse, mais c'est quelque chose qui, dans ma tête, va devoir améliorer pour pas que ça devienne un handicap dans sa game.
Ouais, ben tu sais, je souhaite vraiment pour l'équipe qui va repêcher Matt Haychuk que ça ne devienne pas ça. Mais tu sais, tu peux regarder un Sammy Nicou, par exemple, à Montréal présentement. Lorsqu'il est très bon, carrière d'avantage numérique, capable de distribuer la rondelle, excessivement bon pour transporter la rondelle. Mais c'est pas pour rien qu'il était dans les gradins dans les derniers matchs. Ça peut être difficile sur le plan défensif aussi. Et c'est pour ça que c'est pas un défenseur qui est établi dans la LNH. Je pense que c'est ça le risque avec Danton Matt Haychuk. Moi, j'ai le goût de te dire que je pense qu'il va être un bon défenseur quand même. Mais est-ce que ça va être davantage un défenseur que tu places sur une troisième paire parce qu'il est trop à risque? Moi, c'est ce que je vais surveiller dans les prochaines semaines, voire les prochains mois, pour voir si c'est une tendance. Tu sais, plus tu vois de match, plus tu te rassures sur certains détails. Mais moi, c'est ce que j'ai hâte de voir dans son cas.
Si ça vous dit quelque chose, Danton Matt Haychuk, il avait effectué trois petites parties l'année dernière. Au U18 avec l'équipe Canada. Vas-y, Marguerite.
Il y a un détail qui est intéressant, par contre, avec lui. Là, moi, j'aime souvent regarder ça. T'sais, je pense qu'il n'y a pas de meilleure personne pour connaître un espoir que son entraîneur-chef. Un gars qu'il côtoie tous les jours et qui a à prendre des décisions qui je mets sur la patinoire au bon moment. Une chose qui est intéressante avec Danton Matt Haychuk, c'est qu'il joue vraiment beaucoup. C'est le défenseur le plus utilisé des Warriors de Moose Jaw. J'ai regardé ses temps de jeu là. Il n'a jamais joué moins de 22 minutes en moyenne et même lors d'un match, je pense que c'est contre Medicine Hat, il a joué 33 minutes 40. Donc ça te donne une idée, ok, son entraîneur-chef aime l'utiliser, encore là on s'entend qu'il est très offensif, c'est normal que tu vas l'utiliser, surtout au niveau junior c'est plus facile de contourner les joueurs, donc je peux comprendre que tu veux te donner un avantage pour obtenir des buts tout simplement. Mais quand même, ça m'en dit long. Ça me dit, OK, bon, son entraîneur-chef lui fait confiance, n'a pas peur de lui donner du temps de glace. Et plus tu joues, plus tu t'améliores également. Tu es plus exposé à certaines situations. Puis par la suite, tu prends davantage tes informations et ça te permet de t'améliorer davantage, en tout cas beaucoup plus qu'un joueur qui ne joue pas. Ça peut avoir des couteaux à double tranchant aussi. Shea Weber, c'en est un bon exemple. Était un défenseur très peu utilisé à son année de repêchage. Tout simplement parce que les Rockets de Kelowna avaient une excellente équipe, par la suite obtenu sa place, puis là on a bien vu que finalement c'était un espoir qui était bien meilleur qu'on pensait, mais tout simplement pour dire que Matt Haychuk, ça au moins de ce côté-là c'est intéressant.
Oui, parce que je suis content que tu parles de Mark O'Leary qui est son entraîneur, mais en faisant mes recherches, je suis tombé sur un rapport de partie, puis après la rencontre, il a affirmé que c'est son meilleur joueur de l'équipe et c'est la raison pour laquelle il le fait autant jouer. Il passe pas par quatre chemins, c'est vraiment le meilleur joueur de sa formation. Donc, comme tu dis, est-ce que c'est le fait que c'est un peu plus décousu, moins structuré le junior, fait qu'un joueur comme Matt Haychuk peut plus s'illustrer? Je ne sais pas, mais il est capable d'en prendre, il est capable de prendre des minutes, et forcé d'admettre qu'il fait quand même bien là, dans la WHL.
Mais tu sais, pour te donner un exemple, on parlait de Damon Hunt, qui est quand même un choix de troisième tour du Wild, ben, je veux dire, c'est quand même un joueur un an plus âgé qui a été deux ans plus âgé. Et c'est quand même Matt Haychuk qui a plus de temps de jeu. Donc, je pense que ça aussi, c'est un autre détail. Là. On le préfère davantage à un espoir qui est repêché et qui a été repêché quand même assez tôt. Là. Donc, ça, c'est un autre détail à ne pas sous-estimer. Tu sais.
Ceci dit, ça met quand même qu'un grain de sel. Des fois, ça peut juste être le style de l'entraîneur. Mm. Un joueur qui l'aime dans la chambre, récompensé, peu importe. Mais les faits sont là, c'est le joueur le plus utilisé par le Moose Jaw. Marty, j'aimerais ça te lancer une curveball. Parce que on le sait, on aime ça analyser des prospects. On aime ça parce que ça nous amuse. Mais il y a une facette de l'analyse des prospects qui est plus difficile. C'est les gardiens de but. Mais autant on n'est pas des experts des gardiens de but, je pense que c'est important qu'on se prête au jeu. Je pense que c'est important qu'on tente le coup. L'année passée, notamment, tu avais prédit que Kosa, dans ta liste à toi, pas prédit, mais dans ta liste à toi, tu le voyais sortir devant Wallstead. C'est arrivé. Donc, je pense que tu as fait tes classes. Tu
es capable de... D'ailleurs, par rapport à Kosa, c'est drôle parce que tu sais, je parlais du Ice de Winnipeg, là, 14 victoires en 15 matchs. Leur défaite, c'était contre Edmonton et bizarrement, c'était Sébastien Kosa, le gardien. Je pense que, tu sais, j'ai regardé le lancer, là, c'était pas 50 lancers, là. Mais tout simplement pour dire que, tu sais, quand je dis un gardien spécial, je pense que ça en démontre un petit peu, tu sais.
Bon, ben, je te pose la question. Est-ce que Tyler Brennan, avec Prince George, c'est un gardien spécial, lui?
Ben, pas comme les Spencer Knight, pas comme les Yaroslav Askarov et pas comme les Jesper Wallstedt ou Sébastien Kosa. Faut comprendre que la QV 2022 pour les gardiens de but, là, on tombe un peu plus à la normale. Là. Des gardiens qui peuvent être repêchés au deuxième tour. Il n'y a pas de gardien qu'on dit « OK, lui, c'est une valeur sûre. C'est certain que c'est un gardien numéro un dans la LNH. » Et on mise sur lui. Je pense que ce n'est pas le cas. Et là, en ce moment, il y a toujours des gardiens finlandais qui sortent de nulle part au mois d'avril qui me surprennent. Là. Mais pour l'instant, de loin, le meilleur gardien de dans les listes, c'est Tyler Brennan. Donc, moi, je le vois vraiment comme un espoir de deuxième tour, pas de premier tour. Mais il y a des choses intéressantes. T'sais, c'est quand même premièrement, il y a le gabarit, 6 pieds 4 pouces. Il n'est pas très gros, là. Il est 190 livres. Et lorsque tu le regardes jouer, honnêtement, tu as l'impression que ses jambes, c'est des allumettes. C'est, il ne prend pas beaucoup de place. Et là, moi, ça me laisse simplement penser que si... tu le fais travailler avec les années, là, tu fais passer son deuxième junior, tu le fais jouer 2 ou 3 ans dans la Ligue américaine et qu'il débarque dans la LNH à 24 ou 25 ans, ben, il va avoir eu le temps de prendre du coffre, prendre du poids, avoir renforcé ses jambes. Tu peux arriver avec un gardien à 210-220 livres, si tu veux, puis là, il va être pas mal plus gros. Donc, tu le sais comme moi, hein. Moi, j'aime beaucoup les gardiens qui se font frapper par la rondelle. Sans nécessairement avoir les gros réflexes de fou, parce que parfois...
Ben oui, tout ce que ça prend, c'est une technique.
Exactement, tu sais. Donc, si tu te fais frapper par la rondelle qui est un peu plus gros, je pense que ça peut donner de quoi de meilleur que ce qu'on voit présentement. Moi, c'est l'évaluation que je fais de lui. Il est quand même athlétique également. C'est quelqu'un qui bouge quand même assez bien, couvre bien ses angles. Le plus gros problème que j'ai constaté, par contre, avec lui, c'est ses retours. Il contrôle très mal ses retours. Le match que j'ai regardé là, c'était contre les Royals de Victoria. C'est peut-être une des pires équipes de la WHL. Donc les adversaires envoyaient des rondelles au filet, ils donnaient vraiment des mauvais retours devant lui, mais ses défenseurs étaient toujours capables de dégager la rondelle. Moi, en tant que si j'étais un directeur général ou un entraîneur-chef, c'est tout ce que je demanderais à mon gardien, qui bloque le premier lancer et que les défenseurs dégagent par la suite. Mais malgré tout, lorsque tu évalues des gardiens pour les habiletés, c'est indéniable, c'est quelque chose qui doit travailler. Selon moi, c'est quelque chose qui doit travailler. Là. Son contrôle des retours, là, parce que s'il débarque avec une équipe qui est moins bonne défensivement ou tout simplement contre une équipe meilleure, ben là, ça peut se compliquer un petit peu. T'sais.
Oui, puis c'est valide ton argument pour un lancer sur une jambière, mais quand c'est un lancer en pleine poitrine puis que la rondelle ne se fait pas avaler par le gardien de but, c'est une autre chose. Donc, ce sera surveillé. Ceci dit, l'échantillon est tellement faible. Dans le cas de Brennan, il n'a que 6 départs depuis le début de la saison et ses chiffres sont vraiment moins bons que ceux de l'année dernière, qui était aussi un échantillon très faible parce que, je le disais, la COVID, la WHL. Mais l'an dernier, on parle quand même de 2,16 de moyenne, 9,33 d'efficacité. Là, c'est 2,76 de moyenne, 9,14 d'efficacité. Effectivement, c'est petit en début de saison, 2-3 bonnes performances de suite et hop, c'est reparti. Mais quand même, ça reste que pour l'instant, est-ce que c'est peut-être parce que je joue avec une équipe plus faible, c'est possible. Mais il ne met pas des chiffres sur le board pour impressionner là, les recruteurs, disons.
Mais lui, il faut prendre en considération également, là, il faudrait que je retourne voir les statistiques, mais si je ne me trompe pas, il y a eu deux premiers matchs dans cette saison très difficile. Il a accordé 5 buts, je pense, les 2 matchs. Puis par la suite, là, il s'est replacé. Là, moi, le match que j'ai regardé, il a obtenu un jeu blanc. Et il a davantage accordé 1 but, 2 buts. Là. Ça, c'est lors des 3, 4 ou 5 derniers matchs. Là. Ça s'est replacé. Donc, est-ce que c'était simplement des erreurs de parcours avec les 2 matchs?
Un peu de rouille.
Exactement, un peu de rouille puis tout ça. Ça peut être ça également, tu sais. L'autre chose qui est intéressante avec lui à surveiller, et honnêtement, c'est un désavantage dans son cas, c'est qu'il y a un excellent gardien avec lui à Prince George. Taylor Gauthier, c'est un espoir de haut calibre. C'est un joueur qui est, premièrement, c'est un gardien de 20 ans. On parle d'un gardien qui a quand même fait partie d'équipe Canada Junior, donc avec un très gros statut. Même s'il n'a pas été repêché, ça demeure un gardien considéré parmi les meilleurs au Canada en principe. Donc là, c'est difficile par la suite de dire « OK, je vais préférer... » C'est pour ça que tu as un peu c'est pour ça qu'il n'a pas gardé autant de matchs. Parce qu'on est dans un système à 2 gardiens. Les 2 gardiens sont très bons. Donc ça, honnêtement, ça lui complique un peu la vie aussi.
Bon, je sais, Marty, qu'on parle d'un espoir des Canadiens par podcast. Bon, généralement, on termine le podcast avec ça. Et cette semaine, ce sera Jordan Harris. Mais on ne peut pas passer dans la WHL sans prendre des nouvelles de Caden Goulet. Ça va de soi. Goulet, bon, j'apprends rien à personne, le choix de premier tour du Canadien. En 2020, il avait passé près de faire l'équipe, du moins on l'avait gardé relativement longtemps au camp d'entraînement. Donc, il avait manqué le début de la saison avec les Raiders de Prince Albert. À ce moment-là, les Raiders, ça allait très mal. Pas vraiment de structure, on sentait que l'équipe était un peu plus perdue. Et là, étonnamment, depuis que Caden Goulet est rentré dans la formation des Raiders, les choses semblent se replacer. Est-ce que j'extrapole trop? Est-ce que j'accorde trop de crédit à Caden Goulet? Ou il a vraiment un effet stabilisateur avec cette formation-là?
Non, mais tu as raison. Puis j'en avais parlé il y a environ un mois aussi, lorsque justement Prince Albert avait plus de difficultés. Veux pas. Puis on parle de Caden Goulet, mais il y a également Nolan Allan, le premier choix des Blackhawks de Chicago. Même si je ne l'aime vraiment pas comme espoir, ça demeure un défenseur physique, défensif, qui peut aider ton équipe dans un calibre de hockey junior. C'est indéniable. Donc, tu rajoutes un Nolan Allan et un Caden Goulet, ben, par la suite, c'est certain que c'est beaucoup plus facile. Ça stabilise ta défense et ça également, je pense que vous le savez un peu à Montréal, là, quand tu n'as pas de défenseur qui effectue des relances, c'est plus difficile pour les attaquants par la suite d'amener un jeu de transition puis créer des chances de marquer. Ben, c'est certain qu'avec un Goulet et un autre, comme je dis, Nolan Allan, je n'aime vraiment pas, mais dans le calibre de la WHL, ça demeure quand même un défenseur efficace et bon. Là. Donc, c'est certain que ça aide d'avoir ces deux défenseurs-là.
Puis là, j'ai mis beaucoup d'emphase sur l'aspect défensif de la chose, mais ça reste qu'à l'attaque, il contribue. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien parce qu'on sent qu'il n'a pas cette pression-là. On sent que il est trop fort pour la WHL. Je veux pas que le monde parte en peur. Je veux pas que les gens... Bon, c'est le nouveau Bobby Orr. C'est pas ça que je dis. Tout ce que je dis, c'est que on le voit qu'il est confortable. Il est pas dépassé par les événements. Il est capable de prendre des choses en main, effectue la transition, ça fonctionne pas, fait un 360, on revient, on repasse, c'est pas grave. À l'attaque, bouge bien la rondelle, voit les lignes de passe, prend des bons lancers. Des aspects de jeu qu'on n'a pas nécessairement vu de Caden Goulet lors du camp d'entraînement des Canadiens, moi, je trouve ça très encourageant. C'est comme si, est-ce qu'il était peut-être juste nerveux avec le CH et là, il reprend confiance. Donc là, quand il va revenir dans la Ligue nationale, probablement l'an prochain, il va revenir en force. Si on avait commencé la saison cette année, ça aurait été une autre paire de manches.
Mais c'est pour ça que la décision des Canadiens de l'avoir renvoyé dans la WHL, moi, selon moi, elle est tellement bonne. Pas pour le jeu défensif. Sur le plan défensif, honnêtement, c'était déjà un défenseur de la Ligue nationale de hockey. Et surtout avoir la 3e paire des Canadiens présentement, il y aurait sa place sur une 3e paire. Ça, c'est pas un problème. Mais comme tu disais, le jeu offensif, on n'a rien vu du camp d'entraînement et c'est normal parce que le jeu va tout simplement plus vite. Puis tu veux pas prendre, surtout un défenseur comme Goulet, là. Oui, il se porte davantage à l'attaque, mais ça demeure un gars qui est plus conservateur, qui fait attention avant de vouloir se porter à l'attaque. Ça assure vraiment que la situation est parfaite, qu'il y ait un attaquant qui prenne sa place ou tout simplement qu'il y ait une occasion d'attaquer mais de revenir assez rapidement sans nuire à son équipe. C'est un défenseur comme ça, donc si tu débattes dans la LNH et que tu as des vétérans Tu sais, supposons que tu joues contre Toronto, t'as Mitch Marner, t'as John Tavares, t'as des vedettes à plus finir. C'est normal que tu ne vas pas prendre de chance. Et là, tu te concentres davantage sur ton jeu défensif, tu tentes de ne pas trop faire d'erreurs. Et puis, considérant aussi le fait que comme tu joues contre des meilleurs joueurs, bien, tu t'exposes davantage à des erreurs et là, tu affectes complètement ta confiance. Tandis que de l'envoyer dans la WHL, comme je dis, niveau défensif, il n'y a rien à apporter. Il est pratiquement parfait. Je l'ai regardé, là. Puis il jouait contre une bonne équipe. Le match que j'ai regardé, là, c'était contre les Blaze de Saskatoon. Ils ont quand même deux des meilleurs pointeurs de la WHL, dont le meilleur, là, Tristan Robbins et Kyle Cernkovich, un autre espoir que j'aime beaucoup. Et ces deux gars-là ont été réduits, ont été blanchis. Là, je parle quand même des meilleurs pointeurs de la WHL. Mais tout simplement pour dire que... Si tu joues contre des meilleurs joueurs, des vedettes, les meilleurs joueurs au monde, ben là, tu affectes davantage ta confiance. Tandis que de le renvoyer dans la WHL, là, comme il est tellement dominant défensivement, c'est pas un problème pour lui, ben il peut commencer à se concentrer davantage sur le plan où il doit s'améliorer, le plan offensif. Là, comme les adversaires sont moins bons, il peut prendre plus son temps, travailler davantage les petits jeux, prendre de la confiance. C'est important, ça. Tu joues en... Ça, c'est l'autre détail. À Montréal, il n'aurait probablement pas joué en avantage numérique. On aurait pris
c'est sûr que non.
C'est certain. Tandis qu'en ce moment, il est sur la première vague. Et il y a beaucoup, beaucoup de temps de jeu en avantage numérique. Puis tu vois que c'est efficace. Il est bien meilleur pour contrôler le jeu, attirer un attaquant vers lui, libérer un joueur. Il s'améliore beaucoup. Et tu sais, même sur le plan de transporter la rondelle, de surprendre l'adversaire en profitant du fait que l'attention n'est pas sur lui. Et j'ai trouvé qu'il faisait davantage qu'à son année de repêchage ou même à 18 ans, il n'a pas joué énormément. Là. Il était avec le Rocket de Laval pour la majorité du temps, puis il s'est blessé ensuite. Mais tout simplement pour dire que il travaille davantage. Là, il va prendre de la confiance et je te le dis, lorsqu'il va débarquer à Montréal, si ce n'est pas la fin de cette saison, ce sera l'année prochaine, bien là, il va avoir pas mal plus de confiance. Il va peut-être vouloir essayer les petits jeux offensifs. qu'il n'aurait pas fait cette saison. Et c'est pour ça que c'est important de dire, au lieu d'avoir un espoir qui devient un défenseur de troisième paire parce que tu l'as jeté dans la gueule du loup trop vite, parce qu'il n'a pas eu le temps de développer un aspect important pour devenir un défenseur de premier plan dans la LNH, c'est-à-dire le jeu offensif, ben à la place, tu deviens un défenseur de troisième paire qui est simplement unidimensionnel défensif. C'est pour ça, moi, souvent, quand je dis prenons le temps de l'envoyer dans le calibre inférieur qu'il domine avant de s'amener dans la LNH. C'est ça, principalement pour ces raisons-là. Parce que moi, je pense que Caden Gooley a un très beau potentiel de défenseur top 4 et pas comme un défenseur de troisième paire. On l'a repêché premier tour parce qu'on veut le voir dans le noyau, pas pour devenir simplement un gars qui joue 16 minutes par match. T'sais.
Puis je pense qu'il y a un aspect qu'on sous-estime toujours un peu quand on évalue là, les joueurs puis leur progression puis leur projection à long terme, c'est l'aspect leadership et le fait qu'il est capitaine de son équipe junior, le fait qu'il justement il agit un peu à titre de général de cette équipe, le fait qu'il va assurément jouer avec Team Canada, c'est tous des petites choses, des outils qu'il met dans son coffre à outils qui va lui servir pour l'avenir. Et honnêtement, quand tu regardes l'édition actuelle du Canadien de Montréal et leur performance, très content de savoir que Caden Gooley n'est pas de cette équipe-là parce que honnêtement, ça ne ferait que lui nuire. Et là, Marty, ça m'amène à ma question suivante. Hier, on apprenait que Mathias Norlinder a recommencé à s'entraîner avec l'équipe et on espère qu'il va jouer éventuellement des matchs avec le Canadien de Montréal cette année. Moi, ça m'a jeté en bas de ma chaise.
Alors, moi, tu pourrais demander à Dave Morissette, là, hier, dans le bureau, j'étais complètement renversé. Je disais, bon, le Canadien a bien compris. Pas du tout. Tu sais, Nick, là, qui n'est pas là, d'ailleurs, je le salue. Je sais qu'il ne va pas très bien présentement. On le salue, mais tu sais, il nous mentionnait l'exemple de Victor Mété il y a quelques semaines, voire quelques mois. Puis l'exemple, c'est exactement le même. Victor Mété, on l'a jeté dans la gueule du loup trop vite alors qu'il n'était pas prêt. Mathias Norlinder ne domine même pas en Suède. On préfère Simon... Là, je parle même avant les débuts des camps. Là. On préférait Simon Edvinsson pour jouer sur la première paire. Un défenseur de 18 ans qui va être excellent, mais c'est un défenseur de 18 ans. Laissez-lui le temps d'aller se développer en Suède, de dominer, ou à la limite, dans la Ligue américaine. Mais pas directement dans la LNH. En plus, en deux matchs, il est moins 3. Après, j'ai pas regardé les matchs du Rocket, là, mais d'après moi, il n'a pas été très bon. Là. Si un Mathias Norlinder, normalement, un Mathias Norlinder dominant, on aurait déjà vu des vidéos sur Twitter, sur YouTube, de lui qui fait des montées à l'emporte-pièce. Il aurait marqué probablement un très beau but en avantage numérique où il aurait alimenté un joueur. Tu sais, on aurait vu plein de choses là, sur les médias sociaux. On n'a rien vu de tout ça et il est moins 3. Moi, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à améliorer. Donc, imagine si tu l'amènes à Montréal avec du calibre bien meilleur, des joueurs qui te mettent davantage de pression en échec avant. Moi, je pense que si tu veux bousiller un espoir, c'est la meilleure recette, honnêtement.
Okay. Tu dis des joueurs qui te mettent de la pression, des fans qui te mettent de la pression aussi, parce que là, les partisans ont tellement rien à se mettre sous la dent, sont tellement fâchés par les performances en général des Canadiens. Si tu leur dis que Norlinder joue, on ouvre notre téléviseur et on ne fait que scruter à la lettre Norlinder qui, lui, va être en pleine période de réhabilitation dans la Ligue nationale de hockey. Après avoir connu un camp mi-figue, mi-raisin, honnêtement, j'ai de la misère à comprendre où est-ce qu'on s'en va avec ça. J'ai l'impression que c'est plus... Puis, je ne porte pas de mauvaises intentions canadiennes, mais ça semble être un move pas mal plus marketing qu'un move hockey. Ça semble être un move... Hey, venez acheter des billets, venez au Centre Bell, venez regarder Norlinder. On pense tellement court terme, ça m'a renversé. Ah.
Mais c'est parce qu'encore une fois, moi, j'ai l'impression qu'on pense aux Canadiens de Montréal et on ne pense pas aux joueurs. Tu sais, le développement des joueurs, c'est individuel. Je peux te dire que... je pourrais te dire, par exemple, que Jordan Harris, il est pratiquement de calibre de la LNH présentement. Mais c'est pas la même chose qu'un Mathias Norlinder, même si les deux ont le même âge. Le développement des joueurs, ça se passe... C'est pas pour rien que des joueurs, parfois, on se dit, lui, je pense qu'à long terme, il va être bon, mais c'est à long terme. Laissons-lui le temps de progresser. Il y en a d'autres qui, à 18 ans, sont prêts pour la LNH. C'est du cas par cas, tu sais. Et là, je pense que c'est un peu le problème. C'est que là, les Canadiens, je pense que sur le plan hockey, ça peut un petit peu se défendre, dans le sens où le Canadien n'a aucun défenseur pour transporter la rondelle. Là. Ils ont Chris Wideman et Sammy Nicou, mais ils sont sur la troisième paire et clairement, Dominique Ducharme ne leur fait pas confiance. Souvent, il utilise... c'est le bon vieux système qu'il a utilisé durant les séries. Là, tu utilises tes trois premiers défenseurs et le quatrième va alterner avec soit Wideman ou soit Nicou. Là. Ça démontre un peu que tu n'as pas nécessairement confiance en eux. Donc, tes défenseurs qui transportent la rondelle ne sont pas vraiment utilisés. Donc, tout simplement pour dire que c'est pas pour rien que le Canadien a de la difficulté à effectuer un bon jeu de transition et à sortir la rondelle parce qu'ils sont beaucoup trop lents. Est-ce que c'est ça qu'on veut faire avec Mathias Norlinder, prendre un gars qui est bien meilleur en sortie de zone, qui est réputé justement pour son jeu de transition? C'est peut-être ça. Mais moi, je te le dis, je pense que défensivement, il y a tellement de choses à travailler que présentement, dans la LNH, ça va être trop difficile, selon moi, du moins.
Oui, puis je fais un dernier point pour conclure sur Norlinder, mais tu viens de le dire. Dominique Ducharme n'a pas peur de laisser de côté les défenseurs pour surutiliser ceux en qui il fait confiance. Est-ce qu'on veut voir un Mathias Norlinder jouer 6-7 minutes par match? Est-ce que c'est vraiment ça qu'on espère pour un, je dirais pas jusqu'à dire un joyau, mais quand même un bon espoir de l'organisation? Est-ce qu'on peut tout simplement le renvoyer en Europe? Là, c'est-tu si compliqué que ça? Mais bon, on verra peut-être que c'est le plan, c'est de le faire jouer 2-3 parties. Et, en tout cas, j'ai hâte de voir comment ça va se développer, mais c'est sûr qu'on va suivre ça. On va suivre ça de très près.
Mais tu sais, c'est intéressant parce que pendant qu'à Montréal, on pense faire jouer des matchs à Mathias Norlinder, à San Jose, William Eklund, il y a 18 ans, OK? Il a un très, très bon début de saison. Là. Il avait 3 points en 4 rencontres.
4 points en 9 matchs, finalement.
Ouais, c'est ça. Mais je parle de son début de saison. Ça a été plus difficile par la suite. Un point seulement à ses 6 derniers matchs. 4 points en 9 matchs. Qu'est-ce qu'on fait du côté des Sharks? On le renvoie en Suède, malgré le fait qu'il avait montré de belles choses. Et j'ai tellement trouvé ça intéressant. Là, le directeur du recrutement des Sharks, qui est Doug Wilson Jr., le fils de Doug Wilson, le directeur général, a expliqué sa décision. Et je trouvais ça tellement intéressant. Grosso modo, là, qu'est-ce qu'il dit, c'est lorsque tu repêches un joueur si haut et tu as tellement d'attentes, là, tu ne veux pas simplement avoir quelqu'un qui contribue à ta formation. Tu veux quelqu'un dominant. Tu veux quelqu'un qui fait sentir sa présence, qui fait une différence tous les matchs. Puis lui, c'est ce qu'il disait. Il dit, ça aurait été difficile pour moi de voir William Eklund vers la fin de la saison et de dire, OK, c'est un spécialiste de l'avantage numérique. Parce que 3 de ses 4 points ont été obtenus à l'avantage numérique. Donc, ça laisse présager qu'à 5 contre 5. même s'il n'a pas été mauvais, j'ai même regardé un de ses derniers matchs, tu le vois qu'il est présent, tu le vois qu'il est, c'est un, il est de calibre, il est capable de même créer de certaines occasions dans les coins, il est bon, mais c'est vrai qu'il n'est pas dominant. C'est pas Lucas Raymond à Détroit qui met des buts à ne plus finir et qui fait gagner des paris à certaines personnes pour le trophée Calder.
Mais pour revenir avec Lund, je pense que c'est évident qu'il avait un plan d'établi à San Jose. On lui donne les 9 parties, parce qu'on sait le l'aspect contractuel de la chose. On lui donne un avant-goût de la Ligue nationale de hockey. On lui permet de se tremper le bout des orteils dans l'eau. Après, on le renvoie à Drew Gardens. Va travailler ces aspects-là que tu as vu que tu étais peut-être un peu plus faible, que tu avais peut-être un peu plus de misère, et reviens-nous en force l'année prochaine. Est-ce qu'on ne peut pas appliquer la même philosophie avec Norlander et le Canadien? Teste l'eau, retourne en Suède. Penses-tu que c'est un peu ça le plan avec le Canadien aussi?
Clairement, visiblement non, parce qu'on veut lui faire jouer des... en tout cas, j'espère que c'est ça. Parce que, comme je te dis, tu ne veux pas le bousiller, le joueur. Ce que je viens de nommer avec William Eklund, ça s'applique probablement avec Jesperi Kotkaniemi. À 18 ans, il est débarqué au camp. Il était de calibre Ligue nationale. Il se démarquait par son talent, même si physiquement, c'était difficile. Est-ce qu'il était dominant? Non. C'est un joueur qui a obtenu 30 points à sa première saison. Il n'était pas dominant. Et en plus, il y avait des carences sur le plan physique. Il aurait dû retourner, si ce n'est pas en Finlande, au moins jouer dans la Ligue américaine, dans un calibre un peu plus inférieur, prendre la confiance sur le plan offensif.
Je ne suis pas sûr qu'il pouvait jouer à AHL. Il pouvait jouer à AHL, il me semble. C'était Europe ou NHL, il me semble, si je me souviens.
Non, il n'avait pas fermé la porte. Puis quand tu es Finlandais, il n'y a pas de problème. Tu peux jouer dans la Ligue américaine à 18 ans. Là. Non, il était ouvert à l'idée. C'est simplement que... c'est ça, mais c'est simplement qu'on aurait dû faire ça. Et là, finalement, qu'est-ce que ça donne avec Jesperi Kotkaniemi? Peut-être qu'on a un peu nu à son développement. Alors que là, si tu regardes du côté des Sharks, moi, je pense que la décision avec William Eklund est très, très bonne. Et je regarde ça et je trouvais ça vraiment intéressant. On le renvoie en Suède, on le voit dominer là-bas. Il va représenter la Suède au championnat mondial de hockey junior. Il devrait être très dominant, je vous le dis tout de suite. Puis il va simplement prendre la confiance, il va aimer ça, il va travailler plein de petits détails sur le plan offensif. Puis la Ligue suédoise, c'est quand même une très bonne ligue. Là. C'est probablement une des 5 meilleures ligues au monde. Là. Donc, par la suite, l'année prochaine, il peut revenir au camp des Sharks. Puis là, par contre, il va peut-être être pas mal plus dominant. Là, on va peut-être le garder à 19 ans parce qu'il va être tellement bon.
Je ne vais pas te prendre de cours, Marty, puis je le sais qu'on fait l'évaluation ligue par ligue. Puis aujourd'hui, on est vraiment dans la WHL. Mais on parle beaucoup des clowns qui retournent à Drew Gardens. Puis on le sait, Drew Gardens, c'est un peu l'équivalent des Knights de London en Suède. C'est une équipe vraiment qui est année après année compétitive, qui est reconnue aussi pour bien former les espoirs. Et ils en ont de très, très bons encore cette année, notamment qui pourraient sortir au premier tour. Est-ce qu'il y a des joueurs à Drew Gardens qui t'impressionnent, qui tapent un peu plus dans l'œil? Tu sais, je le sais qu'il y a quand même Ogren qui est là, il y a Otslund qui est là, il y a Lekkerimäki qui est là. Y a-t-il un de ces trois joueurs-là qui ressort du lot pour toi?
Moi, j'adore Jonathan Lekkerimäki. Je l'avais vu jouer dès cet été. Je ne me trompe pas, il était au Linka Gretzky pour la Suède. J'avais adoré son jeu parce que c'est un gros bonhomme, il a un très, très bon lancer. Pour le sens offensif, là, le style power forward, si tu veux, moi, j'aimais beaucoup le potentiel que Jonathan Lekkerimäki pouvait apporter. Là, ce qui est malheureux, c'est qu'il a été blessé un petit peu là, vers le début de la saison. Je sais qu'il est revenu récemment. Je n'ai pas eu la chance, malheureusement, de le voir jouer dans les dernières semaines. Mais le premier coup d'œil était vraiment intéressant parce que je me disais un gros ailier qui a un excellent lancer. Ça fait toujours des dommages dans la LNH. Moi, honnêtement, c'est un gars que j'aime beaucoup. Pour avoir regardé plusieurs listes, j'ai hâte de voir, mais je pense que ça va être un gars que je vais peut-être avoir un petit peu plus haut que les autres. Dans le cas d'Orgren et d'Orklund, je pense que c'est de bons joueurs aussi, mais je pense qu'il y a peut-être moins un petit peu à offrir offensivement. C'est de bons joueurs quand même. C'est des joueurs à surveiller pour le premier tour. Mais c'est des joueurs très efficaces défensivement, ça, il n'y a aucun doute. Là. Mais c'est plus au niveau offensif là, que j'aimerais ça en voir davantage. Je pense que c'est peut-être, du moins dans le cas d'Osklund, je pense qu'Ogren, il y a une bonne chance pour le premier tour. Il est quand même un petit peu plus gros. Osklund, je le verrais davantage comme un espoir de deuxième tour parce qu'il est c'est davantage le plan défensif qu'il démarque et moins offensivement. Mais bon, Faut pas tout prendre pour du cash non plus avec la Ligue suédoise. Là. Comme je le mentionnais, tu joues contre des hommes et surtout, tu n'as pas beaucoup de temps de jeu. Souvent, tu es 12e attaquant, 13e attaquant, tu joues 2 ou 3 minutes par match. Faut que tu prennes la peine de voir les matchs qui se disputent au sein du circuit des moins de 20 ans et les matchs chez les professionnels et essayer de faire une espèce de comparaison avec ça, dire « OK, il jouait dans un calibre vraiment trop faible pour lui avec les moins de 20 ans, mais calibre beaucoup trop relevé avec la Ligue suédoise. » C'est pour ça que c'est toujours un peu plus difficile à évaluer, la Ligue suédoise, parce qu'il ne joue jamais vraiment dans... Il joue tous contre des espoirs trop faibles ou trop forts, contrairement à la OHL, par exemple, ou la LHJMQ, où là, tu as tous les joueurs du même âge qui jouent ensemble. Là, c'est pas mal plus facile, t'sais.
Anyway, ça, c'était qu'une petite parenthèse. On aura la chance de revoir là, nos listes pour la Ligue de la Suède. Mais juste parce qu'on parlait de Djurgården, je trouvais ça intéressant qu'on s'arrête quand même. C'est des espoirs que je voulais t'entendre à ce sujet-là. Marty, je veux qu'on parle d'un sujet plus NHL. Bon, si Eklund a fait le chemin NHL Grand Junior, ben Alexander Holtz, lui, a fait le chemin inverse dans les derniers jours. Il est passé de Utica aux Devils. Bon, si on se fie seulement à Elite Prospect et qu'on regarde seulement ses chiffres, il n'a pas obtenu de points en deux parties avec le New Jersey. Mais toi, tu ne te fies pas seulement qu'à Elite Prospect. Alors, je te pose la question. Est-ce que tu as aimé ce que tu as vu d'Alexander Holtz? Penses-tu qu'il est avec les Devils pour y rester?
C'est intéressant. J'ai pas détesté ce que j'ai vu. Je pense que, tu sais, au niveau de l'effort, au niveau de mettre de la pression sur les défenseurs adverses, même dans la LNH, je ne l'ai pas trouvé nécessairement mauvais. Là. Non, il n'a pas été si pire que ça. Je te dirais que là, le gros des... Alexander Holt, j'ai toujours dit ça, là, même à son année de repêchage, c'est quelqu'un qui va avoir besoin que quelqu'un lui remette la rondelle. Sa force, veut pas, c'est son lancer. J'ai regardé les 5 buts qu'il a marqués à Utica, et dans les 5 buts, je pense qu'il y en a 3 que c'est des lancers dévastateurs, là, lancer dans la partie supérieure, tu fais pratiquement voler la gourde. Là. Mm-hmm. C'est des jeux comme ça qu'il fait. Ça va lui prendre quelqu'un vraiment. Puis les jeux que j'ai remarqués, surtout dans la Ligue américaine, sans avoir regardé totalement les matchs, mais comme les défenseurs sont un peu moins bons, il y a plus de jeux de transition et il y a plus d'espace pour décocher son fameux lancer. Là, dans la LNH, je trouvais que la pression était peut-être un peu plus grande et ça fait en sorte que, même en avantage numérique, là, en passant, ça a été un petit peu plus difficile. Là, en même temps, tu vas me dire que tu sais, je veux dire, les gars qui avaient la mission de l'alimenter, à droite, c'était Pavel Zaha, il est bon, mais tu sais, c'est pas Jack Hughes non plus. Et t'avais piqué Subban à la pointe, qui, honnêtement, c'est le bon vieux piqué. Là, pas nécessairement le meilleur avec la vision de jeu, avait tendance à envoyer ça davantage au filet. Là, ça, c'est sûr que si tu n'utilises pas le lancer Alexander Holt, c'est pas mal plus difficile. Donc, moi, c'est un peu ça. J'ai aimé son effort. J'ai aimé comment il s'impliquait. Même si défensivement, il y a du travail à faire, je trouve qu'il n'est pas toujours bien positionné. Mais l'effort est là. Il veut se donner. Il est dans les batailles. Ça, il n'y a pas de problème. Il est bien meilleur qu'il l'était il y a 2 ans là-dessus, je pense. Mais c'est vraiment pour le plan offensif. Il faut que quelqu'un lui distribue la rondelle. Ça va être quelqu'un comme ça. Il n'est pas capable de faire les jeux comme Lucas Raymond. Là, lui, est capable de faire davantage de choses par lui-même. Je ne suis pas certain que c'est le cas d'Alexander Holtz.
Mais Alexander Holtz, dans ma tête à moi, il va retourner au championnat mondial. Je me trompe-tu? Il va jouer. Là. Il va pas rester toute l'année avec les Devils. Ils vont le prêter pour le tournoi estival là, qui a lieu pendant la période des fêtes. Là.
Ben, ça dépend. Je veux dire, s'il continue de rester avec les Devils, qu'il est capable d'obtenir plusieurs points, que finalement, son ratio de points par match est très bon, ben là, on n'a peut-être pas intérêt à le renvoyer dans la Ligue. On n'a peut-être pas intérêt à le prêter à la Suède pour le championnat mondial d'hockey junior. Mais oui, s'il joue avec Utica davantage et qu'il n'est pas dominant dans la LNH, ben oui, c'est certain que tu as davantage intérêt à l'envoyer au championnat mondial junior. Premièrement, c'est une expérience qui est super belle à vivre. Tu peux gagner avec tes compatriotes, avec la Suède. Et Dieu sait que pour les Européens, gagner des tournois, c'est excessivement important. Ça leur fait vraiment plaisir. Puis après ça, ça te permet simplement d'amener de la confiance à un autre niveau. Tu sais, je pourrais te ramener à... Et c'est un très mauvais souvenir pour les partisans des Canadiens. Mais rappelez-vous de Jacob Delarose. Jacob Delarose à 19 ans avait commencé dans la Ligue américaine. C'était vraiment, vraiment difficile. Je ne suis pas certain que c'était la bonne idée, là, mais en tout cas, a commencé dans la Ligue américaine, était allé avec la Suède au championnat du monde de hockey junior, mais avait tellement été bon. Par la suite, il avait arrivé avec beaucoup plus de confiance. À l'époque, je pense que c'était à St. John ou à Hamilton, en tout cas, peu importe. Il est revenu bien meilleur dans la Ligue américaine et ça lui avait valu un rappel dans la LNH. Rappelle-toi, là, tous les partisans des Canadiens étaient déchaînés par rapport à Jacob Delrose. Ben oui. Ben, tout simplement pour dire qu'Alexander Holt, c'est ça que ça peut apporter aussi. Si tu arrives au championnat du monde de hockey junior, premièrement, il va justement retrouver Eklund, son ancien coéquipier à Djurgårdens Gardens. Puis là, si ça fait un excellent duo tellement dominant, puis il transporte cette confiance-là avec les Devils, ça peut faire des petits, là. Ça peut être vraiment intéressant.
T'sais. Ben moi, je m'attends honnêtement à ce qu'il soit prêté pour ce tournoi-là. Contrairement à Dawson Mercer, qui est le même repêchage, soit dit en passant, je m'attends à ce que lui reste avec les Devils. Il a joué toutes les parties des Devils depuis le début de l'année. Il fait très bien. On sent qu'il je dirais pas qu'il transcende cette équipe-là, mais il fait vraiment partie de l'équipe. Il contribue. Holt, l'échantillon est encore très, très mince. Mais si ça ne s'améliore pas nécessairement, je pense que ce serait la bonne décision de lui permettre de vivre cette expérience-là. Et par la suite, on verra où est-ce que ce sera le mieux pour lui pour continuer de se développer.
Mais de toute façon, Mercer n'est pas éligible. Là. Il va avoir 20 ans, donc en principe, il ne peut pas jouer. Bon. Puis en plus, Mercer, comme tu dis, est beaucoup plus important. Là. Il joue au centre. Puis dans les petites facettes du jeu, il est bien meilleur. Là. Il récupère davantage de rondelles, est capable de signaler sa présence en alimentant des coéquipiers, etc. Là. Et non, lui, il va rester. Puis, comme je te dis,
il est bon avec les Devils. Fait que c'est éligible ou pas, c'est sûr qu'il n'y aurait pas participé. Mais là, c'est confirmé. Exclusivité Martin Thériault ne sera pas. Ce ne sera pas du tournoi. Ouais,
Marty, c'est pas une exclusivité, mais en tout cas, c'est pas...
Marty, je veux qu'on termine ça avec le segment espoir des Canadiens, comme on le fait à chaque semaine, on aime ça. Juste prendre des nouvelles là, d'un espoir des Canadiens.
J'en avais deux pour le prix d'un cette semaine. On vous a fait gouler, puis là, on vous fait un autre espoir.
On a fait gouler, on a fait Norlinder, on a fait Jacob Delarose, on triche un peu, mais je veux qu'on regarde plus en profondeur Jordan Harris. On le sait, Harris donnait des sueurs froides à quelques parties l'année dernière quand il a mentionné qu'il veut rester à Northeastern. Il n'a pas voulu signer tout de suite avec le Canadien. Il coule présentement sa dernière année dans la NCAA. Il connaît une très bonne saison. Et là n'est pas le point. Mais est-ce qu'on s'attend quand même à ce qu'il rejoigne l'organisation à la fin de l'année? Penses-tu que ça va être le cas? Penses-tu que ça va changer? Tout semble pointer vers oui. Mais toi, ton gut feeling, ce serait quoi?
Ben, écoute, on peut pas dire à 100% qu'il va jouer avec les Canadiens. Il veut pas le pouvoir de négociation de signer avec les 31 autres équipes demeure là. Ça demeure un fait. Maintenant, avec les informations qu'on a, il y a fort à parier qu'il va probablement signer avec les Canadiens. Ça a l'air d'être quelqu'un qui s'attarde vraiment beaucoup aux études, pour qui c'est important. Et il l'a déjà mentionné, je pense que sa famille, il disait à quel point sa famille ne lui aurait jamais pardonné qu'il quitte l'université sans avoir obtenu de diplôme en poche avant de s'en aller dans les rangs professionnels. Je vais croire le jeune, je pense qu'il est honnête à ce niveau-là. Mais un argument de négociation excessivement important pour une équipe comme les Canadiens, ça a toujours été le cas. Les gros espoirs universitaires, c'est toujours ça qui arrive à toutes les années. Et là, la situation des Canadiens la facilite davantage. Écoute, ces joueurs-là veulent tous jouer dans l'LNH, que ce soit au moins un match.
Brûler l'année de contrat.
Donc, si tu es capable de lui promettre, écoute, je te fais signer un contrat, mais tu joues à Montréal demain matin. Ben, écoute, ça, c'est davantage pesant que, par exemple, s'il signe avec les Bruins de Boston, par exemple, et que les Bruins de Boston, c'est quand même l'équipe de sa région, c'est un joueur du Massachusetts. Je veux dire, les Bruins, eux, auraient pas mal plus de difficultés à dire à Harris, OK, on va te faire jouer un match, alors que tu as des. Même si j'aime pas nécessairement leur défense, là. Mais tu as quand même des McAvoy, des Brandon Carlo, des Jakub Zboril. Il y a davantage de joueurs. Tu as Mike Riley, Connor Clifton. C'est plus difficile de lui faire une place. Tandis que Montréal a un très bel argument là-dessus. Et je te le dis pour l'avoir vu jouer. Je pense que, honnêtement, je me demande s'il ne serait pas de calibre Ligue nationale en ce moment. Donc imagine s'il prend une année de développement, qu'il travaille encore plus, davantage ses petits détails. Je pense qu'il pourrait débarquer à Montréal, jouer quelques matchs à la fin de la saison. Puis non seulement il pourrait jouer quelques matchs, mais je pense qu'il pourrait se démarquer et être bon.
J'aimerais ça que tu le précises, Marty, pour peut-être les gens à la maison qui se posent la question. Est-ce qu'à la fin de son année universitaire, il peut signer avec n'importe quelle formation ou ça doit attendre à l'année prochaine?
Bien, La seule équipe avec laquelle il peut faire ça, c'est les Canadiens de Montréal. S'il veut devenir joueur autonome, là, par la suite, ça va au, si je ne me trompe pas, c'est au 15 août. Tu arrives au 15 août, puis là, par la suite, là, ça t'ouvre la porte à signer avec les 31 autres équipes. Ça, c'est un autre avantage des Canadiens. On peut le faire jouer immédiatement parce que c'est un espoir d'organisation. L'équipe a ses droits jusqu'au 15 août, justement.
Comme ça, les Jimmy VC, les Will Butcher l'ont fait là, dans les dernières années, de ne pas signer avec leur équipe pour finalement s'aligner avec une autre formation. Mais Marty, comme tu dis, le Canadien a ce pouvoir de négociation-là et on n'a pas besoin de reculer bien loin. Là. Alexander Romanov va l'amener dans la bulle à Toronto, ça lui a brûlé une année de contrat. Ryan Poehling, ça a été la même chose avec Charlie Lindgren. Le Canadien n'a pas peur justement de donner des contrats en fin de saison à des joueurs pour les attraper, pour les signer. Comme ça, ça fait en sorte que le joueur lui brûle une année et reste dans l'organisation par la suite.
Mais je te dirais aussi que tu as l'avantage avec la fameuse clause 10.2C. Souvent, les espoirs universitaires qui débarquent et qui disputent 4 ou 5 matchs, disons, dans la LNH, mais par la suite, je dois ressortir la clause 10.2C. Là. Mais c'est dans le fond, ton joueur devient, lorsqu'il devient joueur autonome avec compensation, Plutôt que d'être joueur autonome avec compensation et là d'avoir des offres hostiles, un peu ce qui est arrivé avec Jesperi Kotkaniemi, ben tu tombes dans la clause 10.2C. Et si je ne me trompe pas, c'est parce que tu n'as pas disputé assez de rencontres avant de devenir joueur autonome. Et là, ce que ça fait en sorte, c'est que tu n'as pas le droit de recevoir une offre hostile. Ça enlève. C'est arrivé à Kirill Kaprizov avec le Wild cet été, notamment. C'est arrivé avec Quinn Hughes, justement. Kel Makar a fait la même chose. Et ça, veut pas, ça enlève du pouvoir de négociation aux joueurs parce que tu peux pas signer avec les 31 autres équipes. Tu es limité seulement à ton équipe et tu n'as pas le droit à l'arbitrage non plus, comme c'est un deuxième contrat. Donc, c'est pas mal plus difficile. Là, Kaprizov avait utilisé l'argument KHL pour l'aider. Exact. Mais un gars comme Quinn Hughes, par exemple, ça a peut-être été un peu plus difficile et veut pas dans les négociations. Là, c'est sûr que je m'en vais dans 2 ou 3 ans, mais ça peut aider les Canadiens à le garder un peu plus longtemps à un salaire beaucoup moindre parce que tu n'as pas le pouvoir de négociation.
Et mais lui, quand même, est content parce qu'il va brûler une année d'entry level à 900 quelques mille dollars pour justement passer plus rapidement un vrai contrat Ligue nationale. Donc là, je pense que c'est gagnant-gagnant dans les deux côtés. Puis je suis convaincu que le Canadien va faire ça parce que si le Canadien avait pu le faire, il l'aurait fait l'année dernière. L'année dernière, on aurait aimé ça. Amener un Jordan Harris à Montréal. Il aurait déjà fité avec le club canadien. Donc, je suis convaincu qu'on va faire ça cette année. Mais si on oublie l'aspect contractuel de la chose, puis on se concentre plus sur l'aspect joueur de hockey, lui aussi, c'est le capitaine de son équipe. Lui aussi, il acquiert du leadership. Ça, c'est payant pour un jeune joueur.
Ah, absolument. Puis, tu sais, on sous-estime parfois comment un joueur américain, là, ça aime tellement jouer pour les universités américaines. Tu sais, puis je peux comprendre, là, tu le vois souvent, les images de la NCAA, là, les partisans qui sont... En plus, les fans sont revenus cette année. Là, les partisans qui sont derrière toi avec les fanfares, les trompettes, tous tes amis avec qui tu dors au dortoir dans les universités viennent te voir jouer. Tu joues toujours devant tes chums. Des belles rivalités universitaires. Là, on peut parler de la rivalité avec Northeastern qui est contre les Boston College University et Harvard lorsqu'ils débarquent au Beanpot à Boston. Ce sont tous des expériences qui sont tellement, tellement enrichissantes. Ça, c'est plaisant pour eux. Ils vivent ça. Puis dans le cas de Jordan Harris, comme tu mentionnais, là, ça devient un vétéran, un des bons joueurs quand même assez âgés de la NCAA. Il domine, il peut simplement dominer. Et comme je te dis, honnêtement, dans toutes les facettes du jeu, il est vraiment dominant présentement. C'est tout simplement... super intéressant de le voir se développer davantage, tu sais, honnêtement.
Oui, puis il y a quand même sa part de points aussi depuis le début de la saison. Bon, j'apprends rien à personne en disant que c'est un défenseur, mais il y a quand même 9 points en 11 parties. Donc, il est capable d'amener sa part de points. Il est capable. Et Northeastern, c'est une des bonnes équipes, malgré qu'il y a quand même, comme tu l'as dit, là, des équipes relevées dans cette division. C'est une des bonnes formations de la NCAA. Donc, oui. Il va apprendre beaucoup. Il va être capable de justement de gagner de l'expérience et il sera intéressant à suivre là, à la fin de la saison.
Ouais, puis tu sais, moi, ce que j'adore tellement avec Jordan Harris, c'est son intelligence. Il est tellement, tellement, tellement intelligent. Il, toujours, tu sais, le sens du hockey, le hockey IQ, là, ça, il l'a, il n'y a aucun doute. Et il va toujours attaquer au bon moment, repérer si c'est l'occasion de le faire parce qu'il y a un attaquant derrière ou s'il n'y en a pas, ben par de la façon que l'angle est placé, il est capable de revenir plus facilement. Je vais donner un exemple. Là, j'ai regardé son match contre New Hampshire, qui était, je ne me trompe pas, c'était assurément la semaine dernière. Là. Puis, il y a une pression à deux joueurs. Les deux adversaires se positionnent le long de la rampe. Tu sais comme moi que le jeu naturel à faire, c'est d'envoyer la rondelle par la rampe. Mais là, dans ce cas-ci, s'il avait fait ça, ce serait fait couper sa passe par un des deux, peu importe du côté qu'il l'aurait envoyé. Mais il n'y avait personne devant le filet. Je le sais, là, la règle numéro un, c'est que tu n'envoies pas une rondelle devant le filet. Mais dans ce cas-ci, il n'y avait personne d'autre qu'un de ses coéquipiers devant le filet. Donc, immédiatement, il fait une passe arrière à son coéquipier, puis son coéquipier aurait effectué une relance. Ça, c'est un jeu super... c'est un jeu d'un joueur intelligent. Tu sais, si tu avais tout simplement un joueur qui est habitué d'envoyer des rondelles par la baie vitrée, là, je te confirme qu'il se serait fait couper, il aurait peut-être eu une chance de marquer de l'autre côté. Ça démontre à quel point c'est un joueur intelligent. Et non seulement ça, ben, il y a plusieurs autres facettes. Il est bon offensivement, il est en avantage numérique, il est capable de bien distribuer la rondelle. C'est un joueur qui a un bon coup de patin également, mais il fait toujours ça au bon moment. Il ne fait jamais ça. Ça peut arriver une ou deux fois, là. Il n'y a personne de parfait, mais en principe, il limite pas mal les revirements. Il est même capable de frapper un peu sur le plan physique. Je ne pense pas que ça va être ça dans la LNH, mais dans la NCAA, il se démarque quand même. C'est pour ça que ça fait tellement un beau joueur et, comme je te l'ai dit, à cause de son intelligence, moi, je pense que dès en ce moment, je pense qu'il serait capable de jouer dans la LNH. En tout cas, ça, certainement, regarder la défense des Canadiens, je pense que c'est certain qu'il y aura une place dans le top 6. C'est ça.
J'ai pas de misère à le courant. Mark Team, encore une fois, gros podcast cette semaine. J'espère que vous en avez appris plus sur les espoirs de la WHL. La semaine prochaine, ben, on boucle la boucle. On revient au Québec et on s'analyse la LHJMQ. On espère que vous serez avec nous. On espère que vous avez passé un bon podcast. Le mot de la fin, Marty?
Ben écoute, on est simplement ravis, on est toujours ravis de vous informer sur les espoirs. Si vous avez des questions, des commentaires, des insultes, allez-y, on est très ouverts. C'est ce qu'on apprécie, c'est pour ça qu'on est là, c'est ce qu'on veut vous faire, vous renseigner. Si vous avez des idées, des questions que vous aimeriez savoir sur l'espoir le plus obscur, vous voudriez avoir des informations sur, je ne sais pas, Alexander Gordin en Russie, ben allez-y, ça va nous faire plaisir, puis on va se renseigner, puis on va vous informer par la suite.
Et comment vous nous rejoignez? Vous pouvez nous rejoindre via notre page Twitter, Podcast La Relève, ou encore sur nos vidéos de la page YouTube, la page Facebook. On est là, on s'amuse avec ça et j'espère que vous vous amusez avec nous. En mon nom personnel et en celui de mon collègue Martin Thériault, on vous dit à la semaine prochaine.